Radio Livre Dormir.
Radio Livre Dormir.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
Le matin, de 8h
à 10h,
le jeudi matin.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
92.2 sur Canal Sud.
92.2.
Rencontre avec Isabelle Cambourakis autour de la réédition de « Contre-violence ou la résistance à l'État » de Françoise Daubonne, paru aux éditions Cambourakis, le 2 mai 2023 à la librairie Terra Nova.
Bonjour. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux à la librairie pour écouter Isabelle Cambourakis, que nous avons le plaisir d'accueillir ce soir. Donc Isabelle Cambourakis est éditrice, elle dirige la collection Sorcière aux éditions Cambourakis, mais elle est aussi autrice et chercheuse. Et ce soir, elle vient nous présenter un livre qui s'appelle « Contre-violence ou la résistance à l'État » de Françoise Daubonne, qu'elle vient de rééditer. Donc c'est un texte qui datait de 1978 et qui vient donc d'être réédité à la fin de l'année dernière, et dont elle a écrit la préface, une longue préface, qui revient sur la trajectoire de Françoise Daubonne. Donc Isabelle a fait un travail très fouillé et soutenu de recherche historique sur la vie de Françoise Daubonne, sa famille et également les contextes politiques, sociaux dans lesquels cette trajectoire s'est inscrite. Et a cherché à retracer ce qu'on appelle la carrière militante en sociologie politique. Ce qui donc implique de comprendre dans quels cercles sociaux s'est inscrit les engagements d'une personne, et ce qui permet de ne pas faire de Françoise Daubonne une héroïne qui serait révolutionnaire engagée comme ça, et de juste de comprendre quelle est la fabrique de cet engagement, dans quoi cette trajectoire s'est tissée. Donc ce travail de recherche t'a mené notamment à mettre à jour quelque chose qui n'avait pas encore été travaillé, c'est-à-dire la socialisation politique dans laquelle elle a grandi, les engagements de sa famille qui étaient toujours présentés par Françoise Daubonne comme anarcho-syndicaliste. Bon, je te laisserai revenir là-dessus. Et donc les recherches d'Isabelle permettent de montrer qu'en fait elle a grandi dans un milieu d'extrême droite. Et donc ça, c'est une des choses très intéressantes que ton travail de recherche a permis de mettre à jour. Et du coup, je vais te laisser la parole pour présenter cette trajectoire et les grandes étapes de l'engagement de Françoise Daubonne, de sa naissance en 1920 jusqu'à son engagement dans l'action directe écoféministe, en passant par le Parti communiste français et le Front homosexuel d'action révolutionnaire. Et je te laisse présenter tout ça.
Donc, bonsoir à toutes et tous. Merci pour l'invitation. Merci à Laurence, que je connais depuis longtemps, en vrai. Donc, je suis très contente d'être avec elle. Et puis, je suis contente aussi d'être là parce qu'il y a 8 ans, quand on a démarré la collection, une des premières dates que j'ai faites, enfin, de lieu plutôt que j'ai fait, c'était ici pour la sortie d'un livre écrit par des Toulousaines, qui était un livre sur l'infanticide. C'était pas forcément le livre le plus simple qu'on a édité, mais c'est un livre absolument super important. Et donc, j'étais venue et il y avait quand même un petit peu moins de monde à l'époque. faut dire que depuis, on a fait une cinquantaine de livres. Donc, voilà. Donc là, je retourne 8 ans en arrière et je reviens à Toulouse. Donc merci. Donc, ouais, je pense que tu as déjà tout dit, en fait. Donc ouais, t'as tout spoilé en réalité. Donc en fait, j'ai plus aucune révélation à faire sur la vie de Françoise Aubonne. Non. Donc juste peut-être commencer par dire que c'est un des multiples livres qui sortent sur Françoise Aubonne en ce moment. Donc ça fait, on y reviendra certainement plus tard, mais ça fait plusieurs années qu'il y a des rééditions de du travail, de l'œuvre de cette militante féministe importante. Elle est morte en 2005 et en fait après 2005 et même déjà avant, elle était, on la connaissait plus. Enfin, c'était plus quelqu'un qui faisait référence, que ce soit dans les milieux politiques ou littéraires, hein, parce qu'en fait, elle était essentiellement connue comme écrivaine quand même de son vivant. Et donc, il aura fallu plusieurs années, une dizaine d'années, avant que certains de ses textes soient réédités. Donc déjà, je voulais, avant de faire son parcours politique, insister sur le fait que c'était avant tout une écrivaine ou une personne qui a fait toute sa carrière, pour le coup, pas carrière politique, mais sa carrière professionnelle dans le monde du livre. Donc c'est quelqu'un qui a passé son temps à écrire. Donc ça fait partie de ces personnes complètement graphomaniaques qui passent, je ne sais pas si ce mot existe, mais bon, qui passaient sa vie à écrire tous les jours, donc pas un jour sans une ligne, hein, et qui donc a essayé de passer sa vie, par ailleurs, à vivre de son écriture. Ce qui est, pour une femme étant née dans les années 1920, vraiment quelque chose d'extrêmement compliqué. Donc elle a commencé à écrire dès la période de la Seconde Guerre mondiale. Donc elle a commencé par la poésie et après elle a voulu faire carrière en littérature et elle a surtout fait carrière non seulement en littérature mais en vivant au sein du milieu de l'édition, du milieu éditorial. Donc elle a été lectrice pendant très longtemps, donc elle a vécu de sa plume mais en faisant tout un tas de petits boulots aussi au sein du milieu éditorial. Donc c'est quelqu'un dont il faut imaginer que sa vie c'était écrire, qu'elle a aussi répondu à des tonnes de commandes. Donc elle écrit plus de 200 livres, hein. c'est assez énorme sa capacité d'écriture, et sur des sujets extrêmement variés, donc aussi bien des romans que des essais, que des livres de commandes sur des sujets complètement dingues. Et aussi de la littérature érotique, de la littérature jeunesse. Donc, en fait, voilà, elle a fait carrière dans l'écriture, mais en écrivant dans des registres et des formes extrêmement différentes. Donc ça, c'est une première chose à poser avant de parler de sa carrière politique, c'est qu'elle écrit à partir de cette profession, enfin de cette vie, à l'intérieur du milieu littéraire. Mais donc, parallèlement à cette trajectoire en écriture, effectivement, c'est quelqu'un qui a été engagé très tôt, dès sa jeunesse, on va dire, et qui, si maintenant on la connaît à nouveau, enfin, c'est notamment parce que elle a été très présente dans les années 70, c'est qu'elle a, on la connaît comme étant celle qui a inventé le terme écoféminisme. Donc on la présente comme précurseuse en fait, hein, de l'écoféminisme en France. Et on connaît aussi souvent ses luttes aux côtés des homosexuels, donc du phare dont tu as parlé tout à l'heure, qui est une lutte dans laquelle elle a été extrêmement investie dès le début des années 70. Donc c'est un peu les deux choses qu'on connaissait d'elle et qui ont été, on va dire, un peu diffusées ces dernières années avec des articles. Il y a eu un livre aussi d'Élise Thiébaut qui revient sur notamment aussi sa vie amoureuse. C'est une grande amoureuse et qui a une vie sexuelle extrêmement riche. Et donc, c'est toutes ses vies en même temps, Françoise Aubonne. Donc, c'est assez difficile de démêler, en fait, cette vie-là. Et donc, moi, je me suis particulièrement intéressée sur l'aspect politique de cette trajectoire. Mais on ne peut pas parler de cette trajectoire politique sans un petit peu parler du reste. Donc, cette trajectoire politique, comme tu disais, en fait, ce qui m'a intéressée, enfin, au début, quand j'ai voulu faire rééditer ce texte, c'est un texte qui a été écrit donc, dans les années 70, et moi, je travaille plutôt sur les années 70. Donc, je m'étais interdite jusqu'à présent de travailler sur Françoise Aubonne avant les années 70. D'autres le faisaient, donc je ne regardais pas tellement de ce côté-là. Et donc, quand j'ai voulu rééditer ce texte, je voulais le présenter, je voulais en écrire la préface. À l'époque, c'était une préface, ce n'était pas un texte qui faisait 120 pages. J'imaginais écrire 30 pages. bon, bah, c'était raté. Mais du coup, je voulais vraiment expliquer, donner le contexte qui permettait de comprendre la pensée de Françoise Daubonne sur les questions de violence politique dans les années 70 et la manière dont elle abordait la question des violences politiques, et notamment d'un point de vue féministe. Donc, je voulais présenter, donner suffisamment de contexte pour qu'on puisse comprendre une pensée qui est peu développée en France. Enfin, les féministes ont peu développé la question de la violence, en France notamment. Et en fait, quand j'ai commencé à essayer de comprendre sa trajectoire, donc une trajectoire, comment dire, en radicalité, eh bien, j'ai quand même été voir du côté de son enfance, de sa jeunesse, et puis de toute sa trajectoire politique. Et là, je me suis rendu compte qu'effectivement, ce que je croyais avoir compris, c'était pas juste, c'était pas ça. Et que du coup, pour comprendre cette radicalité, il fallait démêler, se plonger dans toute sa vie, en fait. Parce que ce qu'elle présentait, mais pas simplement elle, c'est-à-dire la manière dont on l'a présentée jusqu'à aujourd'hui, hein, son enfance, c'était qu'elle était issue d'un milieu anarcho-syndicaliste, certes chrétien, donc déjà il y avait un petit peu un trouble pour... Des chercheurs aujourd'hui, enfin pas forcément des chercheurs, mais aujourd'hui on a du mal à imaginer forcément ce type de croisement entre christianisme et anarchisme syndicaliste, etc. Mais au final, quand je me suis plongée dans les textes, il s'agissait de toute autre chose, puisqu'il s'agissait de fascisme dans les années 30. Donc là, c'était une longue préface, vous voyez, aussi, pour essayer de rentrer. Là, je vais essayer de vous dire un peu les étapes de Daubonne. Donc, elle naît dans les années 20. Là, à cette époque, elle est encore à Paris. Et son père, donc, et sa mère, les deux d'ailleurs, ses deux parents, après un passage par le christianisme social, effectivement, en fait, participent du mouvement pré-fasciste français. Alors, on pourra avoir toute une réflexion sur la terminologie, mais je pense qu'on ne va pas avoir le temps, mais des années 30. Donc, ils participent vraiment à des groupuscules fascistes des années 30 à Paris, avec d'autres intellectuels, hein, notamment Le Corbusier, dont il est un très proche, et d'autres personnes. Donc, c'est un moment de petits groupes. Donc, vraiment, on parle de groupuscules parce qu'ils sont 4, 5, 10 dans un coin, et puis ils réseautent, et puis ils sont autour de revues, et puis la revue Périclite, et hop, ils ouvrent une autre revue, etc. Et lui, avec toujours la même petite bande de personnes, il passe comme ça du parti fasciste révolutionnaire, qui est un groupuscule vraiment fasciste de ces années-là, à la revue Prélude. Enfin, il y a plusieurs revues comme ça dans lesquelles il est. Étienne Daubonne, donc ce père, est par ailleurs vient de l'aristocratie des argentés, donc ils n'ont pas d'argent, et à un moment donné, il part vivre à Toulouse. Donc en fait, il y a toute une partie de l'enfance de Daubonne qui se situe ici. D'ailleurs, il y a des choses dans les archives que j'ai pas vues, dans les archives de police, hein, de Toulouse, sur Étienne Daubonne. Donc il vient ici, et là, la famille Daubonne participe encore une fois à ce qu'on appelle les milieux non conformistes des années 30, mais à tendance vraiment plus chrétienne fasciste, on va dire. Et donc Françoise Daubonne est élevée dans ce milieu-là, c'est-à-dire un milieu extrêmement politisé. C'est-à-dire il y a des réunions politiques tout le temps, c'est un espace intense de politisation pour une jeune fille comme Françoise Daubonne. Elle vit au milieu d'un espace qui, par ailleurs, est un espace qui veut être révolutionnaire. Donc c'est un fascisme révolutionnaire, donc qui espère l'avènement d'une autre société, d'une transformation totale. C'est évidemment Mussolini qui arrive en même temps. Donc parmi les proches de la famille, il y a Hubert Lagardelle qui va ensuite aller avec Mussolini à Rome. Voilà, donc ça c'est l'enfance dans laquelle elle a été élevée. Ensuite, il y a la guerre d'Espagne, elle est toujours à Toulouse pendant la guerre d'Espagne, donc c'est un moment important, j'essaie de le faire rapide, mais donc c'est un moment un peu où finalement la famille Daubonne prend de la distance par rapport au reste du mouvement chrétien d'extrême droite français qui était pro-franco, eux ils sont plutôt anti-franco à ce moment-là. Par contre, au moment de la Seconde Guerre mondiale, la famille est et pro-Pétain, vichistes, même si, par ailleurs, ils sont contre l'occupation allemande en même temps. Donc, c'est une espèce d'ambivalence. Enfin, pas d'ambivalence. En fait, il y en a beaucoup qui sont sur cette ligne-là. Donc, une haine des occupants, mais en même temps, un soutien indéfectible à Pétain. Et donc, à ce moment-là, Françoise de Bonne, c'est une jeune femme. Et c'est dans le tournant donc de la Seconde Guerre mondiale qu'elle va, on va dire maintenant des termes comme bifurquer, ou en tout cas qu'elle va prendre de la distance par rapport à cette socialisation politique, et qu'elle va donc déjà mettre vraiment de la distance avec une sorte d'antisémitisme familial, bon, mais générationnel, du milieu dans lequel elle était, et qu'elle entre en action, on va dire. Alors, essentiellement d'abord par la poésie. Elle écrit beaucoup de poèmes à cette époque, et elle est proche à cette époque de ce qu'on appelle la résistance spirituelle. Donc, c'est des chrétiens qui s'engagent notamment à travers des revues, des revues littéraires, des revues poétiques. Et donc, elle est proche de tout un milieu toulousain résistant chrétien. Donc, c'est avec eux, en fait, qu'elle entre dans la résistance, dans une forme de résistance qui est plus intellectuelle qu'active réellement. Ce qui n'empêche pas de fréquenter, parmi ses proches, il y a des personnes qui, eux, vont rentrer au Parti communiste, vont rentrer vraiment dans une résistance active pendant la guerre. Et donc, elle est aussi proche d'amis, notamment une amie qui compte beaucoup pour elle, qui, elle, va ensuite rentrer au Parti communiste et va faire toute sa vie au Parti communiste. Après-guerre, elle rentre, elle aussi, au Parti communiste, mais de manière assez distante, en fait, hein, en fonction un peu des opportunités qui lui sont données de rencontres ou pas. Elle est amoureuse d'Henri Lefebvre, qui est... on va dire sociologue à cette époque, et c'est pour ces raisons notamment, mais pas que, qu'elle rentre au PC avec lui. Et donc, en fait, elle a une vie politique un peu aventureuse, c'est-à-dire que elle sait s'adapter aux rencontres qu'elle fait, et à chaque fois elle se positionne, ce qui va lui permettre ou de se radicaliser ou de rentrer dans l'action ou d'évoluer politiquement en fonction de son parcours. Donc, de la poésie de la guerre, qui est nationaliste au départ, et puis anti-allemande, etc., elle va évoluer vers des positions communistes, mais plus sociales aussi, et aussi avec une dimension plus d'importance de l'action. Donc, elle reste toujours un peu influencée par le modèle révolutionnaire, en fait, familial. Donc, à plusieurs reprises, elle est tentée à chaque fois par une forme de romantisme de la prise d'armes aussi, quand même, qui est fort dans son parcours. Donc là, je vous l'ai fait très, 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 très rapidement, mais ça dure quand même longtemps, plusieurs décennies dans sa vie. Donc, au courant des... pendant les années 60, elle va mettre un peu de distance avec cette politisation. Et là, elle va plutôt fréquenter et être dans tous les milieux qui vont politiser la sexualité dans les années 60. Donc, elle va fréquenter les milieux gays, homosexuels des années 60, les lesbiennes aussi. Donc, elle vit toujours de façon... elle survit, en fait. Hein, donc, elle est toujours logée dans les petits apparts, etc. Au bout d'un moment, elle finit quand même par gagner un peu d'argent. Donc là, elle s'achète un petit studio. Et donc, dans ce petit studio, dans les années 60, il y a toute une espèce de militants, enfin, même pas de militants, mais de jeunes ou de moins jeunes, lesbiennes, gays, qui la fréquentent et qui fréquentent cet endroit. À partir de ce moment-là, elle a de relations amoureuses et sexuelles qu'avec des hommes bisexuels, donc qui sont pour la plupart des militants aussi. C'est le début du militantisme, c'est une forme de militantisme des années 60. Et donc, les années 60, en fait, elle est dans cette... donc, elle a déjà entre 40 et 50 ans, hein, donc elle a déjà de nombreuses années derrière elle. Et donc, elle entre dans la politique, mais par une autre voie, qui est celle donc de la sexualité. Et c'est notamment par cette voie que finalement elle revient dans les années 70 dans des formes un peu plus groupuscules ou politiques d'action directe, comme le phare, qu'elle cofonde avec Hockengame, toutes les personnes qui ont fondé le phare du coup au début des années 70. Donc, en fait, elle rentre plutôt par le biais de la question de la sexualité. que la section du féminisme, même si elle a écrit aussi des textes sur le féminisme dans les années 50, mais c'est une autre histoire. Donc, mais c'est à partir de cette époque, donc elle a la cinquantaine, et là, elle rentre dans une période vraiment d'activité tout azimut, que ce soit sur la question sexuelle, mais à partir de cette question sexuelle, là, elle va vraiment repolitiser la totalité de ses engagements et de ses théories politiques, et c'est aussi à ce moment-là qu'elle écrit régulièrement des textes politiques, plus politiques, on va dire, et qu'elle devient un peu une théoricienne. Enfin, elle l'était déjà, elle a déjà écrit des textes, des essais sur le féminisme, mais c'est là qu'elle commence à réfléchir à l'intérêt de penser de manière concomitante l'écologie et le féminisme, qu'elle propose, une théorie écoféministe qu'elle écrit en 74. Et puis, rapidement, le fait d'écrire, de théoriser, d'écrire, d'inventer, parce qu'elle est aussi, comme elle est... écrivaine, elle écrit, et notamment de la science-fiction écoféministe à cette époque. Et c'est à cette époque que, par le biais des relations qu'elle a avec certains milieux, on va dire, d'ultra-gauche, anarchiste, enfin, toute une nébuleuse politique, que ce soit à Paris, mais aussi des fois par ses anciennes relations toulousaines, mais quand même beaucoup à Paris, elle va rencontrer notamment tous les groupes comme les GARI, qui sont... bien connu à Toulouse, que c'était notamment les suites du MIL, donc tous les mouvements antifranquistes des années 70, notamment toulousains. Donc elle fréquente des espaces de rencontres de ces militants qui, dans l'année notamment 74, ont pratiqué des attentats, donc de la violence politique. Et avec son compagnon de l'époque et d'autres personnes autour d'elle, elle va plastiquer une centrale nucléaire en 75 avec à plusieurs. Donc, comment ?
Qui était en construction.
Tout à fait, qui était en construction. Non, ce n'était pas la centrale qui a explosé. Non, non, c'est une bombinette. Ça reste... Mais malgré tout. Et cette période-là, cette année 75, en fait, elle va plastiquer plusieurs autres endroits. Donc, c'est à peu près six attentats qu'elle commet directement ou indirectement, parce qu'elle connaît les personnes. Donc, c'est un petit groupe d'actions qui sont actifs au cours de cette année-là. C'est l'année 75. Elle accompagne ces actions qui sont pas revendiquées par elle, qui sont à chaque fois revendiquées par des noms de collectifs, etc. Elle accompagne de tout un de textes, notamment très antinucléaires, parce que c'est sa question centrale dans cette année 75. Et puis, rapidement, elle est rattrapée aussi, enfin pas rattrapée, la période fait qu'elle va être très proche, non seulement la période, mais les gens qu'elle fréquente à cette période-là, de la RAF en Allemagne. Et du coup, elle va continuer à écrire et à penser les pratiques d'action directe, de guérilla urbaine, comme pouvait le postuler la RAF, de violence politique plus généralement. Et elle fait partie donc de celles et ceux, notamment à Paris, qui vont accompagner, penser le soutien aux militants de la RAF qui sont incarcérés en Allemagne et ceux qui ne le sont pas aussi. Un de ces des personnes très proches avec qui elle est va être ensuite très très proche de tout le milieu RAF d'après 77. Et voilà, c'est donc dans ce cadre-là qu'elle écrit ce livre, qui est en fait un recueil de textes. C'est un recueil assez hybride où on trouve des poèmes, on trouve des essais, mais il y a différentes formes littéraires et de théorie. À un moment, en fait, un peu, pas charnière, mais à un moment intense de réflexion sur ces questions-là. Dans plusieurs espaces militants de l'époque. Et après, elle continue dans les années 80, mais plutôt en sourdine sur la question de la violence politique. Elle va rentrer dans l'aventure des radios libres. Ensuite, donc, c'est une autre aventure dont je n'ai pas parlé dans le livre. Je me suis arrêtée vraiment à la fin des années 70. J'ai laissé les années 80. et là, je vous l'ai fait très, très rapidement. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser des questions parce que... dans le texte, c'est vraiment expliqué plus lentement. Mais là, j'ai essayé de résumer une vie avec plein de périodes historiques. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est comme moi, je suis pas spécialiste ni des années 30, ni des années 50, ni des années 60. Du coup, il a fallu, pour chaque période, que j'essaye de contextualiser à chaque fois ce que je trouvais. Donc, c'est à une préface qui est forcément imparfaite hein, d'un point de vue historique, qui n'est pas voilà, qui on pourrait faire quelque chose de beaucoup plus ample, mais qui permet selon moi quand même de comprendre cette trajectoire. Donc ça permet de voir les dynamiques de trajectoire politique de sa vie avec suffisamment de contexte à chaque fois pour qu'on puisse quand même en comprendre les enjeux et en, comme tu disais, ce que je voulais, c'était pas du tout en faire quelque chose d'une héroïne, donc vraiment de la mettre, de la réintégrer dans une histoire sociale, dans une histoire politique, tout en montrant qu'elle était très iconoclaste, elle avait quand même un parcours très singulier à l'intérieur de cette histoire, mais qu'elle était complètement, malgré tout, elle faisait de la politique avec des personnes. Elle était jamais seule en fait, hein, donc elle était tout le temps prise dans une histoire collective politique. Voilà. Je vous ai assommé, je suis désolée.
Merci beaucoup Isabelle de t'être prêtée à l'exercice de raconter la vie de Françoise d'Aubonne en 10 minutes. Avant de partir sur plus peut-être les questions, sa proposition politique autour de violence, contre-violence dans le contexte des années 70, je voulais juste dire que c'est... Enfin, moi, je pense que j'avais rarement lu la reconstitution d'une trajectoire militante comme ça dans son entièreté. On commence dans les années 20 et elle a quel âge à la fin des années 70 plus de 50 ans, voilà, ouais, presque 60 ans. Et c'est super émouvant de voir cette radicalisation au sein des différents moments de sa vie et aussi de voir que là du coup c'est pas enfin ça sortait pas dans ta présentation mais qu'il y a aussi des moments de déprise politique totale où pendant 5 6 ans 10 ans en fait elle arrête, elle fait autre chose, elle se consacre à autre chose et du coup c'est vraiment intéressant de
à la sexualité beaucoup.
Oui, et à l'écriture et à l'écriture
et à l'écriture, voilà, c'est ça.
Mais enfin de voir comment ça fonctionne.
Littérature et politique, ça, ouais, c'est ça.
Voilà. et de suivre cette trajectoire qui s'achève, enfin qui là dans les années 70, elle a plus de 50 ans et elle est dans des actions directes de plasticage de centrales nucléaires en construction avec son amant bisexuel et l'amant de son amant. Enfin, on est quand même sur des trucs vraiment. Ça fait du bien de lire des choses comme ça. Et du coup, je voulais et donc ce texte que tu réédites, il s'inscrit vraiment dans les débats des années 70, donc avec d'une part, comme tu as commencé à l'expliquer, toutes les actions de la fraction armée rouge en Allemagne et en fait la mort de Ulrike Meinhof en mai 76. Qui est retrouvée pendue dans sa cellule. Et c'est un des événements qui va faire écrire ce texte à Françoise d'Aubonne. Et donc, ce n'est pas la seule militante de la RAF à être retrouvée morte ou à être assassinée. Donc, il y a d'un côté cette question de du soutien aux luttes armées et de ce contexte politique fort. Comme tu as commencé à le dire, aussi en France, il y a un contexte de prise d'armes et d'action politique dans la lutte armée avec les Garis, action directe par la suite et tout ça. Donc, elle n'est pas non plus toute seule dans son coin. C'est des débats qui ont aussi lieu dans les mouvements féministes auxquelles elle répond. Enfin, la postface est ultra drôle. Elle est postfacée par une camarade féministe du MLF à elle. Et dans les notes de bas de page, elles se répondent. Enfin, c'est infernal.
Elles sont pas d'accord.
Oui, elles sont pas du tout d'accord. Mais c'est. Enfin, du coup, ça s'inscrit dans ce contexte-là où il y a aussi des féministes, par exemple. Enfin, c'est ce que tu abordes dans ta préface, les Dolemina, c'est ça, ouais. Qui aux Pays-Bas décide de pousser, en fait, de faire des actions de rue, de nuit, où elle pousse les agresseurs dans le canal pour renverser la peur. Et il y a aussi des, enfin, il y a aussi un collectif en Allemagne. Enfin bon, il y a d'autres collectifs. La question de la violence politique, de se réapproprier l'agressivité, etc. C'est une question qui est sur la table pour les féministes des années 70 et peut-être moins en France, mais plus ailleurs. Et il y a aussi, enfin bon, après je te laisse partir où tu veux dans tout ça, les débats au sein des mouvements écologistes dans lesquels elle est très impliquée avec ses engagements anti-nucléaires sur violence, non-violence et des débats dont on hérite encore aujourd'hui et qui continuent à faire des conflits monstrueux. Et voilà, et du coup, peut-être situer un peu la proposition de Françoise Daubonne dans tout ça et en dire tout ce que tu as envie d'en dire.
Ouais, bah, c'est pareil, tu as déjà dit beaucoup de choses. Donc, il y a deux choses. Il y a la manière dont, effectivement, ces textes s'inscrivent dans un contexte plus général de réflexion sur la violence. Et puis, la position féministe qui elle-même s'inscrit dans ce débat-là, mais que moi, en tout cas, j'ai traité dans deux chapitres différents. Sur la violence politique, en fait, en résumé, hein, vraiment pour résumer les grandes lignes, donc d'une part, elle adopte une position de ce qu'elle appelle soutien critique aux groupuscules qui choisissent à ce moment-là d'entrer dans la clandestinité, parce que c'est le cas donc de la fraction Armée Rouge notamment, plus tard donc d'Action Directe, et de commettre entre guillemets des attentats, des enlèvements, etc. Donc vis-à-vis de ce choix politique là, elle est en soutien critique, parce que elle dit qu'elle n'est pas d'accord avec tout des propositions, qu'elles soient théoriques ou pratiques, de ces différents groupes. Ensuite, si elle est en soutien, c'est parce que Françoise Daubonne, elle est non seulement féministe et sur les questions de la sexualité notamment, mais elle est aussi très proche des milieux antipsychiatriques de l'époque et anticarcéraux de l'époque. Donc en fait, une de ses entrées, comme beaucoup en fait de militants de ces années 76-77, sont surtout sur la question de l'emprisonnement. Donc notamment de l'emprisonnement d'Ulrich Meinhof et des autres qui sont emprisonnés et qui effectivement dont une partie va mourir en prison. Mais au-delà de ces cas-là, de toute façon, elle est engagée dans un discours très anticarcéral et dans un soutien actif aux prisonniers et aux prisonnières, quels qu'ils soient, que ce soit des prisonniers ou des prisonnières politiques ou de droit commun. D'ailleurs, elle va elle-même épouser un prisonnier de droit commun au cours de ces années-là, pour montrer, enfin, pour elle, c'est une forme de militantisme aussi. Donc, c'est aussi par ce biais-là, en fait, qu'elle rentre dans une discussion avec les autres militants. C'est-à-dire qu'il faut penser ces textes comme étant vraiment des textes de réponse, contre-réponse, enfin, d'argumentation dans un moment où ça discute beaucoup sur ces questions-là. Donc, et elle, de toute façon, elle est tout le temps sur cette position anticarcérale, et ça, c'est que ce soit sur, et c'est ça aussi qui va la différencier notamment de certaines féministes, sur la question de la pénalisation du viol, par exemple, à la même époque, sur donc la question de l'emprisonnement en général, de... Voilà, de tout le côté de loi, etc. Donc déjà, voilà, soutien critique et soutien notamment à cause du système carcéral dont à l'époque il est particulièrement... c'est pas qu'il n'est plus maintenant, du coup, là, il y a vraiment la privation sensorielle. Enfin, il y a une politisation aussi de ce qui se passe en prison autour notamment de ces militants politiques. Par ailleurs, la personne dont elle est proche à ce moment-là, avec qui elle fait les attentats, est lui-même emprisonné en Allemagne et subit lui aussi ses conditions d'emprisonnement. Donc elle se politise aussi parce qu'elle est proche de... parce que ses amants, ses amis vont eux-mêmes se retrouver en prison. Donc ça joue évidemment. Par ailleurs, c'est quelqu'un donc qui est une sorte de trouble-fête, de personne qui complètement iconoclaste, qui va d'un milieu à un autre, qui n'est pas dans un espace politique seulement, mais qui fréquente aussi bien donc les Garis à Paris, ce qui va une partie des membres, des futurs membres d'Action Directe. Elle est très proche d'Eliette Bess, qui a une librairie à Paris qui s'appelle Le Jargon Libre, qu'elle va suivre notamment pendant tout le temps de son emprisonnement. Mais aussi, elle est très proche des milieux écolos. C'est une des féministes les plus proches, on va dire. Enfin, il n'y a pas qu'elle, hein, justement, il y en a d'autres. Mais en tout cas, c'est celle qui fait sans cesse le lien, une sorte de navette comme ça, entre les différents espaces politiques. Et elle fréquente notamment les espaces non violents écologistes de l'époque, qui sont qui politisent la non-violence. Enfin, il y a une manière très une grande force politique autour de la non-violence à cette époque dans les milieux écolos. Bon, je rentre pas dans les détails, ça mériterait, mais bon, bref. Et donc elle va d'un espace à un autre. Et donc en fait, ce qu'elle explique aussi souvent, c'est que à chaque fois, elle prône le contraire. Quand elle va dans les espaces non violents, elle va défendre les positions violentes des militants. Et à l'inverse, quand elle est dans les espaces violents, entre guillemets, hein, avec beaucoup de guillemets, elle va prôner la créativité de la non-violence. Donc en fait, elle adopte dans ces différents espaces et dans ces textes une sorte de position qui est une position où elle veut faire rencontrer en fait différentes familles politiques, en disant que pas seulement théoriquement, mais que stratégiquement, en fait, on peut pas se priver de la non-violence ou de la violence, en défendant les uns et les autres et en étant assez isolé à chaque fois dans sa manière de défendre ses positionnements en fonction des différents espaces. Après, comme c'est quelqu'un par ailleurs qui est une sorte de grande gueule, enfin en fait vous la voyez débarquer, enfin les gens qui m'en parlaient à l'époque, c'était genre voilà, il y a deux bonnes qui arrivent là, donc elle y va, hein, elle envoie. Donc du coup, c'est une forme aussi de c'est une forme de théâtralisation aussi de la parole politique. Et elle n'a pas peur. En fait, son identité repose aussi quand même beaucoup là-dessus, sur cette défense de ses positions. Donc, en fait, ce qui est intéressant sur la question violence-non-violence, c'est qu'elle fait partie des personnes qui essayent de défendre l'articulation des deux. Donc en fait, elle défendrait ce que maintenant on appelle le respect de la diversité des tactiques. En fait, donc en tout cas dans ce livre tend vers ce qu'on a théorisé de cette manière plutôt à partir des années 2000, etc. Et donc on peut voir dans ces textes une forme de préhistoire, mais enfin voilà, de moments de construction de construction, mais dans le conflit, dans la conflictualité. Donc en fait, c'est intéressant parce qu'il y a des textes qui sont vraiment adressés au milieu non violent. Par exemple, il y a un des textes qui est une adresse à Isabelle Cabu, qui était à l'époque la responsable de La Gueule Ouverte, qui était un des journaux écolos les plus importants, et qui elle a adopté notamment avant Cresmalville, donc la manifestation où il y a eu un mort, Vital Michalon, contre encore la construction d'une centrale nucléaire. Donc Isabelle Cabu, elle a adopté un point de vue non violent strict, et à l'inverse, Françoise Daubonne, elle a vraiment adopté une position au contact, quoi. Le plus au contact possible. Donc, mais elles se connaissent depuis longtemps, elles s'apprécient beaucoup, donc elles sont en capacité de se parler vraiment, que ce soit un échange entre elles. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que là, sur ces questions-là, là, on a deux femmes qui sont en train de discuter de violence politique au sein de la presse, alors que par ailleurs, sur La Gueule Ouverte, à chaque fois, on nous rabâche que c'est été inventé par Fournier, mais il était là simplement pendant 2 ans, puis après, c'est Isabelle Cabu qui a fait tout le reste autour de ce journal. Bon. Voilà, donc en fait, ce qui est intéressant dans ce positionnement, c'est cette capacité à aller d'un espace à un autre. Et du coup, ça nous donne des textes qui, évidemment, sont datés dans le sens où il faut les contextualiser. Enfin, ils sont vraiment liés à cette époque. Donc, il y a des références constantes à l'époque. C'est pour ça qu'il y avait besoin d'un texte de contextualisation un peu important. Mais que, au final, quand on le lit, en tout cas, c'est ce que me disent beaucoup de gens qui l'ont lu ces derniers temps, Ça fait vraiment écho à des questionnements très, très contemporains qu'on revit, qu'on vit. Non pas qu'on ait cessé de les vivre, mais il y a des périodes, il y a des périodes différentes par rapport à ça. Et donc là, oui, ça fait écho à des questionnements d'aujourd'hui, vraiment. Voilà.
Merci. on avait envie de vous lire deux textes. Ah, je commence par le poème. Et, je voulais lire un poème pour faire entendre un peu la poésie de Dodo Bone. Et par ailleurs, vous allez voir, cite plein de prisonniers politiques assassinés. Et ça me fait penser qu'on n'a pas dit que le commando qui a réclamé l'attentat de Fessenheim contre donc, la centrale nucléaire en construction en 1975 s'appelait le commando Puig Antigue Ulrike Meinhof. Donc du coup, un militant antifranquiste assassiné, et Ulrike Meinhof, on l'a déjà présenté. Donc c'est pour montrer à quel point ces personnes, ces prisonniers politiques ont une importance considérable dans son engagement. Alors, le poème s'appelle « Voilà ce que j'ai à vous dire ». Abat la tisane des mots de raison, vive le bouillonnement du roc où cogne l'histoire. Abat l'émotion, les pétitions, les manifestations, les élections, vive la gerbe rouge où du feu bondit l'art. Creusons, 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 creusons. Apartheid, PNB, Gégène, Super Phoenix, Super Facocher, Super Kissinger Rockefeller, nucléaire, Monoprix, HLM, moi non plus, ITT, Kitt, Djamila Boupacha, Chiki, Eva Forest, Margherita Kagol, Puig Antigue, Ulrike Meinhof, Sacco et Vanzetti, les Rosenberg, Noël et Marie Muret, Amaillé, Merdrum. Les morts vont vite, les morts vont vite. Globe couvert de poètes assassinés. À force de nous assassiner, on fera de nous tous et toutes des poètes. Forons, 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 forons. Pollution, policiers, famille nucléaire, énergie du même nom, caserne, asile psychiatrique, école horaire, usine et TV Wimpy consommation. Dégueulons, dégueulons, dégueulons. Au ras-le-bol commence l'incendiaire. Assez d'apothéose à nos mutilations. Terminons, terminons, terminons et minons. À l'ère interplanétaire, j'irai vendre plutôt chez les aborigènes la poudre à éternuer que de subir encore l'idiome pustuleux diffusé par vos gueules. Il est temps que je dise, en crevant le décor, pourquoi je suis la graine et ce monde la meule. Voilà. Et sans transition, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Tu le présentes du coup.
Donc en fait, c'est un texte que Vincent Daubonne, son fils, a écrit en soutien au soulèvement de la Terre. Il l'a écrit en imaginant faire revivre Françoise. Enfin, que si Françoise était là, que ferait-elle ? Et donc c'est un texte qu'il a écrit qu'on a été plusieurs à signer. Des gens qui travaillent autour de Daubonne, etc. Alors, Françoise Daubonne et les soulèvements de la Terre. En 1980, la visionnaire Françoise Daubonne écrit « Il s'agit de descendre au cœur même des choses, au centre du péril, au nœud de la question. Il ne s'agit même plus de vouloir changer le monde ou pas. S'il ne change pas, nous creverons, toutes et tous. Il s'agit de passer réellement à l'âge post-industriel. Puisque le maintien de l'âge industriel, et même pas sa croissance, son simple maintien, c'est la fin du monde terrestre dans 30 à 50 ans. » Donc ça, c'est un extrait de Daubonne qui a été publié dans Sorcières en 1980. Face à un pouvoir illibéral, déjà deux fois condamné pour inaction climatique par des cours administratives, mais qui aurait pu prévoir, qui compte défendre, quel qu'en soit le prix, un modèle mortifère jusqu'à son agonie, nous sommes avec Françoise, les soulèvements de la Terre. Face à un conglomérat d'intérêts privés qui, depuis des siècles pour le moins, a organisé la spoliation et le pillage mondial des ressources, qui trouve son apothéose finale en attendant que tout s'écroule dans la privatisation de l'eau au profit d'une poignée d'agro-industriels contre les paysannes et paysans qui nous nourrissent, nous sommes, avec Françoise, les soulèvements de la Terre. parce que nous refusons que notre monde soit celui qui mutile et qui tue des dizaines de millions de personnes, demain des centaines de millions et avant tout les plus exposés que sont les femmes et les enfants dans le sud global, nous sommes, avec Françoise, les soulèvements de la Terre. Parce que nous croyons, avec Corinne Morel-Darleux, que ce mouvement horizontal et décentralisé est une des meilleures nouvelles de la décennie. Parce que comme le narratif affolé du pouvoir le montre, nous savons bien que ce mouvement est une avancée vers l'indispensable mutation que Françoise appelait de ses vœux. Mutation d'une humanité revisitant radicalement ses rapports de genre et de classe dans un autre rapport au monde. Pour toutes ces raisons, nous toutes, terroristes intellectuelles, avec Françoise Daubonne, sommes les soulèvements de la Terre. Voilà. Donc c'est un texte écrit par son fils.
Oui, parce qu'elle a aussi eu deux enfants qu'elle n'a pas élevés. Peut-être je passe direct à...
Vas-y, passe quand tu
veux. Ok. Je viens de comprendre comment il faut tenir le micro, du coup c'est super incroyable. Désolée. Peut-être pour finir, avant de laisser la parole à vous, je voulais peut-être te laisser la parole sur pourquoi c'est ce texte-là de Françoise Daubonne que tu publies, sachant que tu travailles depuis presque 10 ans sur les mouvements écoféministes, que c'est toi qui as un peu ouvert la ronde éditoriale sur le sujet en 2015 avec la création de la collection Sorcières. Et que du coup, comme tu l'as dit, il y a déjà une 50aine de textes qui sont parus dans la collection Sorcières qui ne parlent pas que d'écoféminisme, mais que c'est quand même un des enjeux de la collection de croiser les questions féministes, écologistes, anticapitalistes. Et du coup, je vais te laisser en parler, mais peut-être ça mélange avec l'autre question que je voulais poser, mais que du coup c'est pas non plus le texte de Daubonne dans lequel elle théorise l'écoféminisme, où elle pose le terme. C'est un texte de 1974 qui s'appelle Le féminisme ou la mort. Et donc c'est pas dans Contre-violence, même si elle reprend ce terme-là qu'il apparaît. Et en fait, ma question, elle est un peu aussi sur quelle forme d'écoféminisme on veut défendre dans un moment politique où, en gros, ça, l'écoféminisme, il apparaît sur la scène politique française en 2015-2016 et là, depuis quelques années, donc avec des précurseuses comme Isabelle Kambourakis qui défendent, qui le mettent au devant de la scène, etc., et qui, depuis quelques années, a été très largement récupérée dans des arènes institutionnelles, dans des arènes économiques, des choses qui dénaturent peut-être la proposition écoféministe telle que Daubonne l'a fait. De parler, peut-être je te laisse parler sur ça. Voilà.
Ouais. Oui, alors en fait, c'est vrai que moi, ça fait... plus de 10 ans maintenant que je travaille sur cette question, mais enfin pas tout le temps non plus. Hein. Ce que je veux dire, c'est que j'ai un métier, en fait, je suis instite, donc en fait, c'est dans les trous de ma vraie vie professionnelle. Quand le projet éditorial de Sorcières, plus généralement, c'est de publier aussi bien de la création contemporaine que de rééditer des textes ou de traduire des textes. Donc en fait, j'essaye que ce soit équilibré entre la traduction, les rééditions et les textes contemporains. Rééditer, en fait, c'est une question qui est intellectuellement très intéressante. Qu'est-ce que ça veut dire rééditer ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va chercher comme texte et qu'on décide, alors qu'il y en a plein, qu'on décide qu'il faut le refaire circuler et pourquoi il faut le refaire circuler ? C'est-à-dire, c'est pas simplement un geste d'aller chercher, de faire un peu l'archéologie et d'aller chercher dans les couches et puis de ressortir des textes et puis voilà, c'est fait, quoi. Donc l'idée, quand même, à chaque fois, c'est d'essayer de trouver des textes qui sont en capacité toujours aujourd'hui d'être actifs, qui ont une forme d'efficace, comme dit Isabelle Stenger, c'est-à-dire qui agissent, quoi. Donc trouver des textes qui, malgré le fait qu'ils ont été écrits à une autre époque, ce qui fait qu'ils sont plus difficiles à comprendre, ils n'ont pas les mêmes langues, pas les mêmes références, etc., on puisse quand même leur trouver une sorte d'efficacité et un intérêt politique, parce que l'objet de la collection, il n'est que politique. Hein, c'est juste comment on va changer ce monde. Il n'y a que cette question qui m'intéresse. Donc, quel texte peut nous aider à ça? Donc, en fait, dans la réédition, c'est pas facile pour moi en réalité parce que c'est des textes sur lesquels je travaille aussi. Donc, je suis du coup pas simplement en tant qu'éditrice, mais éditrice et en même temps un peu chercheuse sur ces questions-là. Donc, en fait, je pense que c'est compliqué parce que j'essaye de trouver à chaque fois des formes qui conviennent en fait au livre, à l'objet lui-même. Donc, j'avais notamment travaillé sur un texte de Xavier Gautier, qui est une autre féministe de l'époque, qui a écrit sur le nucléaire, parce que j'ai travaillé pas mal sur les luttes anti-nucléaires. Et du coup, voilà, une des questions, c'était comment ressortir ce texte. Je ne vous raconte pas ce que j'avais trouvé avec notamment Sophie Houdard, qui est une chercheuse spécialiste du nucléaire au Japon, la forme qu'on a inventée ensemble. Mais ce qui m'intéresse, c'est de trouver quand même des formes autour des livres. Bref, tout ça pour dire que sur Daubonne, alors que je travaille dessus depuis un certain nombre d'années, j'avais pas de forme qui me convenait ou pas de texte qui me convenait complètement. C'est-à-dire que, en fait, pour Daubonne, elle a écrit 200 textes. À peu près, mais elle les a écrits hyper rapidement. Elle n'est pas toujours très lisible, en fait. Il faut dire qu'elle a vraiment, que ce soit ses romans ou ses essais, peut-être que d'autres diraient autre chose, mais je trouve que généralement, sur un texte assez long, je trouve qu'il y a toute une partie qui, pour le coup, ne passe pas forcément la rampe de la réédition, en fait. Quand j'avais commencé à réfléchir à la question de la réédition, moi, au départ, dans mon idée, j'étais plus partie sur l'idée de faire une anthologie de textes. Donc, une anthologie qui montre aussi la grande diversité de ces engagements antipsychiatriques, anticarcérales, etc. Donc, j'avais plus cette idée-là au départ. Mais moi, je suis très lente. Les autres éditeurs, ils ont bien raison, les autres éditrices, ils publient les livres, ils ont bien raison de le faire. Donc, du coup, en fait, il y a eu effectivement, pas un phénomène, il ne faut pas exagérer, mais enfin, plusieurs livres qui sont sortis autour de Daubonne. Alors que moi, j'étais encore en train de réfléchir, alors est-ce qu'il faudrait mettre ce texte avec ce texte? Bon. Donc, pas du tout dans la même temporalité, en fait, que la temporalité éditoriale, qui est à des années-lumière de la temporalité, même de la recherche ou de comment on fait. Et puis surtout qu'en plus, tu travailles, tu fais autre chose dans ta vie. Bon, bref. Donc, du coup, à un moment donné, j'étais insatisfaite non pas de ce qui avait été publié, mais en tout cas, ça ne correspondait pas à moi, éventuellement, ce que j'avais envie de porter. Du coup, c'est pour ça qu'au final, je me suis dit, mais ces petits textes qui sont passés complètement inaperçus, qui ont été publiés chez Tierce, une maison d'édition féministe, c'était un des premiers volumes qui avait été publié dans cette maison d'édition à la fin des années 70, qui est une maison d'édition formidable par ailleurs. Moi, ça m'intéressait, c'est l'histoire éditoriale de ce texte. J'aime bien les histoires éditoriales autour des textes. Et puis, ça m'intéressait parce que c'était sur la question de la violence politique et de la violence politique d'un point de vue féministe, sur lequel on n'a pas eu le temps de parler, mais c'est pas grave. Et du coup, je me suis dit, ce texte, il est très hybride. Moi, j'aime beaucoup les choses qui sont hybrides, un peu de poésie, un peu de machin, ça me va très bien. Il est très hybride. Justement, il y a moins de ces passages un peu genre... on passe, parce que c'est des textes assez courts, donc elle est obligée d'avoir un propos assez resserré. Donc moi, ça me convenait dans la forme. Et puis là, j'en viens à répondre à ta question. Ça me convenait aussi dans la manière, en fait, de positionner l'écoféminisme comme étant un peu plus complexe que l'image qu'on peut en donner ou la manière dont, justement, il est réapproprié dans plein d'espaces différents aujourd'hui. Et par ailleurs, c'est vrai que l'écoféministe sur lequel j'ai travaillé, alors, moi essentiellement en France, mais j'ai quand même aussi une idée de ce qui se passe aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon, hein, etc. Donc celui sur lequel j'ai travaillé et travaille d'autres personnes, c'est ce mouvement de la fin des années 70 et début des années 80 qui se construit dans un moment de tension entre l'Est et l'Ouest, hein, autour de la remilitarisation de l'Europe et du bloc de l'Ouest contre la Russie. Donc à un moment donné où il y a tout un mouvement pour la paix qui est énorme à cette époque-là, dont en France on est passé un peu à côté alors qu'il est vraiment très très important dans tous les autres pays, enfin dans presque tous les autres pays européens. Et donc, il y a ce mouvement écoféministe qui participe à ce mouvement pour la paix et qui est massivement un mouvement non violent. Et encore une fois, un mouvement qui théorise la non-violence, cette fois d'un point de vue féministe. Donc ça c'est vrai qu'il y a massivement le mouvement de l'époque est non violent. Mais je trouvais qu'il était important de montrer qu'il y avait aussi toute une histoire qui pensait l'écoféminisme comme un écoféminisme d'action directe, y compris qui pouvait inclure la question de la violence à l'intérieur. Donc là, oui, tu as parlé des Dolomina qui n'étaient pas forcément écoféministes, mais il y a d'autres groupes en Allemagne, au Canada, dont je parle, qui, elles, étaient des militants d'action directe, qui viennent souvent de groupes mixtes et qui ont posé des bombes à droite et à gauche. Non, mais aussi bien sur la question. Alors, c'est le moment, c'est la période de la question autour de la pornographie. Donc, elles ont pas mal plastiqué des cinémas porno, etc. Mais aussi pas forcément des centrales nucléaires, mais de l'industrie pharmaceutique. Au Canada, c'est aussi vraiment sur des questions d'énergie, etc. Donc, il y a un mouvement qui est passé sous les radars et qui a existé néanmoins. Et donc, moi, ça me semblait intéressant aujourd'hui de complexifier cette représentation qu'on pouvait avoir de l'écoféminisme occidental de ces années-là en intégrant cette question et sa radicalité. Bon, après, il y a d'autres questions autour du terme radicalité, mais je ne suis pas forcément entrée dans le sujet aujourd'hui. Mais voilà, c'est notamment pour ça que j'avais envie de le rééditer.
Merci. Oui, merci pour ta réponse. Et attends, je cherche mes notes. Ah oui, c'est là. Et enfin, avant que tu lises le dernier extrait, on peut le lire. Que je trouve qu'il y a aussi, enfin, au-delà du coup de ancrer l'écoféminisme dans un écoféminisme anarchiste d'action directe, parce qu'elle est, elle a aussi tout un, elle travaille beaucoup la question de, l'ennemi c'est l'État et comment on achève, on s'en prend à cet ennemi-là, enfin du coup ancrer, enfin publier ce texte, je trouve ça a beaucoup de sens parce que donc on Françoise Daubonne qui théorise l'écoféminisme et donc de ramener l'écoféminisme dans ce giron anarchiste, libertaire, d'action directe, c'est important. Et ça me donne envie aussi de juste dire un mot sur quelque chose que je t'avais déjà entendu évoquer dans un autre contexte et dont je ne parle pas dans la préface, de comment finalement il y a deux foyers au moins, enfin, que Isabelle a identifié dans ses recherches d'invention du terme écoféminisme dans les années 70. Donc il y a Françoise Daubonne d'un côté, donc dans un terreau anarchiste libertaire, comme on a pu le voir. Et il y a les États-Unis avec Inès Tracking, qui est une militante qui sera dans les mouvements pour la paix que décrivait Isa, mais qui s'ancrait aussi dans le réseau de tradition anarchiste de Bookchin. Voilà. Et du coup, c'est intéressant, je trouve, d'identifier que les deux foyers, et certainement il y en a eu d'autres, et ça, c'est juste les traces écrites qu'on a, et c'est des jeux de circulation, et aussi ce truc super intéressant de comment Françoise Daubonne est devenue l'inventrice de l'écoféminisme, parce que c'est un peu stylé de citer une Française depuis les États-Unis pour inventer un terme, et il n'y a pas trop. Enfin, tu parles de ça, de comment les chercheuses états-uniennes reprennent Françoise Daubonne pour un peu bénéficier de l'aura French Touch. Universitaire, quoi. Et alors que Françoise Daubonne n'était pas du tout universitaire et un personnage complètement inaccaparable par ailleurs. Enfin bon, c'est des jeux de circulation assez intéressants. Mais du coup, d'ancrer l'écoféminisme dans cette tradition-là dans les années 70. Et peut-être, du coup, tu peux lire le texte ou si tu veux dire d'autres choses d'abord. Non.
Oui, alors c'est juste la fin d'un des textes. Ah oui, c'est vrai. La fin d'un des textes. Alors, j'ai de plus en plus l'obsédante impression d'écrire pour les rescapés du futur. L'immense iceberg se profile à l'horizon qui va croiser notre navire entouré de brume. Il y a quelques années encore, on pouvait croire à une organisation de combat ouverte et officielle, à la vertu immédiate de l'information, de la polémique, voire au vote pour tenter d'édifier un barrage contre le pire. C'est fini aujourd'hui. D'ici une trentaine d'années, la plupart des matériaux indispensables à la continuité de notre civilisation industrielle vont manquer irréductiblement. Les riches sols d'Europe commencent à s'appauvrir sous l'effet de l'agriculture industrielle et la pollution marine s'accumule, catastrophe après catastrophe, de marée noire en marée noire. Le tiers-monde se désertifie et la famine y galope, comme jadis les pestes. Le choix nucléaire va couvrir le monde de nos enfants d'un semis de pyramides obligatoirement épaissies tous les 25 ans. Ce n'est pas un tableau poussé au noir, c'est à peine un survol. Et vous croyez encore échapper à la catastrophe ? Et vous hésiteriez encore à utiliser tous les moyens à notre portée, et l'on a ceux que l'on se donne, sinon pour la prévenir ou la retarder, du moins pour détruire ce qui nous détruit. Si l'homme ne disparaît pas, victime de sa propre connerie, de sa pathologie du pouvoir et de son sexisme, s'il reste, comme je veux le croire, des rescapés du futur aux couleurs d'apocalypse, peut-être quelques écrits, comme celui-ci, n'auront pas été tout à fait futiles. Si seulement dès aujourd'hui les femmes s'unissaient pour de bon, on peut toujours rêver, après une si sombre vision permettait à Cassandre de se détendre en quelques fantasmes. Oui, si les femmes, les jeunes femmes d'aujourd'hui prenaient subitement conscience que le féminisme, c'est beaucoup plus que le féminisme, et que le cri le plus radicalement vrai est le féminisme ou la mort. Et pourquoi pas un soulèvement qui, cette fois, irait jusqu'au bout, jusqu'aux moyens extrêmes pour conquérir et garder leur droit d'être enfin des humaines à part entière, de contrôler l'espace et la production, de ressusciter la biosphère assassinée, de détruire ce qu'il est, nous détruit. Ce capital, dernier stade du patriarcat. Ce système de profit, ultime masque de la société de pouvoir. Ce serait la mutinerie du deuxième sexe, l'insurrection internationale, l'histoire, enfin au féminin. Qui dit mieux ? Alors, Olga Banchik, guillotinée dans ma jeunesse, Maïre Drum, l'aïeule assassinée dans son lit d'hôpital, Margarita Cagol des Brigades Rouges, Amaye, la pirate de l'air, Gudrun, Ingrid, Ulrich et tant d'autres. Vous seriez plus vivantes que les mortes vivantes que sont les électrices françaises d'aujourd'hui. Mars 1978.
Merci pour la lecture. Et du coup, ben, on propose de prendre toutes les questions que vous aurez envie de poser.
Non, merci. On est déjà éloge, double éloge, attention. Il y a une dizaine de jours ou quinzaine de jours, il y avait David Dufresne à Toulouse, invité à l'école de cinéma l'ENSAV occupée. Et bien sûr, j'y suis allée. Pourquoi ? Parce que I know, je l'ai outé, bien sûr. J'ai voulu le faire outer lui-même, sa propre descendance, sa propre généalogie anarcho-libertaire contre les violences. Et en effet, il a dit, c'est la première fois que je dis en public, oui, Françoise Dobon est ma grand-mère. Donc je ne répète pas, hein, bien sûr, David Dufresne, Pays qui se tient sage, Twitch, tout ce qui est sur la question de actuellement, dernière sommation, etc. Et donc... Premier éloge pour vous, bien sûr. Donc là, je fais la pub, évidemment, pour le bouquin. De toute façon, je ne fais que ça depuis 2018. Hein. Je fais pas la propagande de toutes les œuvres de Françoise Dobon. J'avais scanné, en fait, cet ouvrage il y a fort longtemps pour le faire diffuser parce que j'en avais marre qu'à chaque fois, on faisait des arpentages de Gederlos, comment la non-violence protège l'État ou que comment saboter un pipeline de Andreas Mann. Mais à chaque fois, je disais, vous savez, il y a aussi une perspective féministe de la contre-violence. Il n'y a pas que des gars un peu vénères. Et donc, à chaque fois, je balançais l'idée. Mais je disais, mais tiens, je t'enverrai le PDF en piratage. Et donc là, en plus, là, donc maintenant, il y a le vrai livre. Donc, merci. Et donc, qu'est-ce qu'il raconte David Dufresne ? Il dit, ah oui, oh, bravo, ouais, Cambourakis, génial. Ce livre ne vaut que par la préface de Isabelle Cambourakis, parce que vraiment, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas foufou. Mais par contre, la préface d'Isabelle Cambourakis est une merveille. Achetez-le pour la préface. Donc voilà, génial. Je suis en partie d'accord avec lui, mais bon, pas totalement, bien sûr, parce que justement, il n'est pas sensible à ce que vous aviez fait déjà en éditant Reclaim, c'est-à-dire que l'écriture écoféministe n'est pas l'écriture du sujet rationaliste, humaniste, qui s'est découpé de l'émotion, qui a éjecté hors de lui la forme sensible, poétique, et qui l'introduit avec une faconde, un lyrisme extraordinaire, c'est celui de notre Françoise. Donc, premier éloge. Bravo. Deuxième. Bon, je l'adore. Bien sûr, merci à vous, vraiment, pour l'œuvre, parce que moi, je me souviens de vous, en sortant, c'était une petite réunion, j'étais de passage à Paris, on sortait d'une réunion du collectif Jean & Co. cette liste de soignantes safe en octobre 2015 et vous aviez dit comme ça en partant, oui, je vais initier une nouvelle collection, etc. Moi, j'ai rien compris parce que donc après j'ai vu cette chose déferler sur nous et nous ouvrir et vraiment ça, des livres ont vraiment changé la perspective politique de beaucoup d'entre nous. Enfin, c'est très très important. Moi, j'ai senti là, avec cette émergence aussi des bonnes connaissances des librairies indépendantes et de tout ce mouvement éditorial, vous l'avez vraiment accompagné, initié, amplifié et vraiment encore grand merci. Je pense qu'il faut quand même aussi le dire, le reconnaître, le célébrer parce qu'on ne prend pas assez de temps pour célébrer ça parce que souvent le livre on l'achète, on l'est seul ou on fait des arpentages. Parfois on socialise un peu cette joie de se rassembler autour du livre, mais voilà, donc grand merci. Et donc maintenant je reviens à une petite question sur Françoise de Beaune, mais c'est vraiment parce que vous avez participé aussi récemment. Font partie de la bande d'Obono, donc Manon Aubel, qui a récemment, j'invite tout le monde à taper Françoise d'Aubonne, France 3, ça fait un peu bizarre évidemment, mais vous allez découvrir un documentaire qui a été produit par France 3, et donc entre autres, vous y verrez donc Isabelle Cambourakis dans les archives de l'IMEC, et où elle discourt aussi, et surtout, on voit quelque chose de phénoménalissime, parce que j'ai envie d'aller à l'INA Toulouse pour aller voir l'entière émission. Elle est sur une émission de 1977, comme ça. Elle est avec un jeune activiste militant, 1977. Et il parle de quoi ? Qui nous concerne aujourd'hui, maintenant, bien sûr, du fichage informatique policier qui permet de criminaliser les activistes, les militants, en 1977, vous imaginez ? Donc en fait, ça, c'est une pionnière, elle a une vision, elle anticipe, une visionnaire, elle a des fulgurances génialissimes, parfois vous avez vu un petit peu l'écriture, parfois, des fois, sur d'autres choses, elle prend pas assez de temps, et c'est un peu bourrin, et on se dit, non, là, c'est quand même un peu léger pour ce que tu balances, mais c'est vrai que, par exemple, voilà, sur cette question-là, est-ce que vous aviez vu accès à l'archive total de cette émission, et est-ce que vous avez fait un petit peu aussi des recherches sur cette question de l'anticipation et à l'époque de la criminalisation par anticipation et par prévention, voilà, de ce qui s'appelle en fait le militantisme écologique et donc écoféministe, etc. Merci beaucoup.
Bon ben merci. mais pour répondre à la question, non, j'ai pas vu ce. Enfin, je l'ai vu dans le documentaire de Manon, bien sûr, hein, cette archive. Et par ailleurs, c'est vrai qu'elle parle de ces questions de fichage dans certains textes, mais j'ai pour le moment pas trouvé. C'est juste des allusions. Des allusions sur plusieurs types de fichage, par ailleurs. Sur le fichage gamin, il y avait, il y avait tout un truc aussi de fichage. C'était quoi, gamin, Olive, tu te rappelles ? Ça, c'est mon compagnon, je travaille avec lui. Et il a une mémoire plus... non, c'était sur la sécu. Ouais. Alors, elle est courte, la fiche DRG sur elle. Mais bon, ça, David, du coup, a travaillé beaucoup là-dessus. Mais en tout cas, la question du fichage était une question qui l'intéressait. Mais c'est parce que, justement, elle était sur ces histoires de prison, mouvement anticarcéral, etc. Et qu'elle était... c'est ça, l'opération gamin. C'était... elle s'oppose, voilà. Elle a mis en place des grands systèmes de fichage. Et gamin, c'était la gestion automatisée de médecine infantile. Et Safari, un autre aussi système de fichage qui a été mis... En fait, il y a énormément de fichages qui ont été mis en place à cette époque-là. Et donc, Safari, c'était le système automatisé pour les fichiers administratifs et répertoires des individus. Donc, ces précurseurs des fichages qu'on connaît aujourd'hui, ils ont été mis en place à ce moment-là. Donc, il y a eu quelques militants qui s'y sont intéressés, certainement. Hein. Moi, je ne connais pas de recherche là-dessus, mais je suis sûre qu'il en existe. Et d'elle, on ne trouve pas... Voilà, dans ces archives, etc., il n'y a pas un dossier fichage, par exemple. Donc, ça fait partie des questions. J'imagine qu'on en parlait. Il y a un mouvement contre Gamin et Safari. Dans la presse ANAR, on va certainement trouver beaucoup de choses dessus. Mais moi, j'ai rien trouvé d'autre sur sa position. Mais ça fait partie des questions qu'elle s'intéressait.
Tu veux faire un petit point sur la
CGT, la position de la CGT sur le nucléaire.
Mais vu que l'invitation, c'était voilà.
Oui.
Peut-être juste dire un mot de ce que vous avez évoqué, qu'il y a une loi d'accélération du nucléaire qui a été votée par l'Assemblée, qui a été finie d'être ratifiée là en mars, en plein mouvement des retraites, c'est passé complètement à la trappe. Et c'est une loi qui, Enfin, c'est assez hallucinant, en fait. Y a, en parallèle, ils ont essayé de fusionner plusieurs agences de surveillance et de sûreté du nucléaire. Et ils ont aussi créé un conseil politique spécial nucléaire pour pouvoir accélérer, en fait, toutes les procédures pour prolonger les centrales qui fonctionnent aujourd'hui, accélérer les chantiers et aussi se donner un peu les pleins pouvoirs pour... Ils passent au-dessus de la loi littorale. Enfin, c'est lié aussi à ce qui se passe à la Hague, de, comme il y a un problème avec les déchets nucléaires, comme un tout petit problème. Ils ne savent pas quoi en faire et donc il y a des projets de construction. Enfin, bon, du coup, c'est assez intéressant d'aller voir ce qui est passé là, un peu en soum-soum derrière le mouvement social sur le nucléaire. C'est très, très flippant. Oui. Donc, du coup, merci pour votre question.
Non, mais oui, du coup, j'ai rien à dire d'autre de ce que tu as dit, mais c'est aussi pour ça que j'avais réédité le texte de Xavier Gauthier sur le nucléaire, qui était une position féministe des années 70 sur le nucléaire. Donc pour montrer que ça existait, qu'on pouvait avoir ce type de position et qu'il y avait eu des militantes, on sait bien sûr qu'il y a eu un mouvement anti-nucléaire très, très important dans les années 70, mais c'était un des rares textes qui avait été édité à cette époque à partir de cet ancrage-là féministe. Et donc, du coup, ça, voilà. Et Xavier qui est tout, elle, toujours vivante et bien vivante, est complètement affolée de ce qui est en train de se passer, par exemple. Elle qui a passé sa vie, en fait, à lutter contre le nucléaire, elle a continué après son engagement des années 70. Là, elle est absolument terrorisée, en fait. Elle dit, mais pff, je comprends pas ce qui est en train de se passer. Oui, ben, évidemment que rééditer les textes de Daubonne, ça participe aussi à vouloir continuer à politiser la question du nucléaire, évidemment, quoi. Donc de ne pas la sortir du champ des questions actuelles, quoi.
Moi, c'est une question par rapport au fait que Françoise Daubonne, finalement, dans son temps, alors qu'elle a été très active, ma question, ça a toujours été, mais pourquoi ? Elle est restée très isolée chez les féministes. Enfin, elle n'a pas fait école, je ne sais pas comment le dire, chez les féministes, en France en tout cas, pas du tout.
Ni ailleurs d'ailleurs.
Ni ailleurs. Non. Tu l'expliques
Alors, ça dépend quelle est ta question. Si c'est sur l'écoféminisme, par exemple, ou si c'est sur toutes ses positions, sur la violence, etc. Tu vois, mais en fait, elle est restée isolée parce qu'elle était... Parce que, comme je disais, c'était une personnalité un petit peu difficile, quand même. Oui. Donc, du coup, c'était pas quelqu'un qui était en capacité... Enfin, elle avait plein d'amis, mais c'était quand même difficile de la suivre complètement. Donc, il y a déjà, en fait, juste une réalité de dans quel espace elle était, etc. Ensuite, par exemple, sur les mouvements féministes, elle a toujours été en relation avec les mouvements féministes, mais elle a toujours été à l'écart aussi du mouvement féministe. Donc, elle était plutôt au phare qu'au MLF. Ensuite, elle était sur la question nucléaire, alors que tout le monde était assez tôt, dès 74. Donc, en fait, elle était dans les milieux non-violents. Alors, justement, où là, les féministes, ils disaient « Ah, mais c'est pas du tout intéressant, les non-violents, ils sont tous essentialistes, machin. » Enfin, elle était tout le temps dans des espaces où on lui reprochait son positionnement. Mais ça, c'est la personnalité, etc. Par exemple, l'écoféminisme, enfin, les textes qu'elle a commencé à publier en 74, en fait, elle est surtout écoutée dans le champ écologique, en fait, plus que féministe. Hein, les féministes, c'est pas du tout une question... La réponse est complexe, mais il y a plein de féministes dans les luttes antinucléaires, mais elles ne le sont pas à partir de leur positionnement féministe. Elles sont féministes et par ailleurs, elles se mobilisent contre le nucléaire et elles ne veulent pas articuler les deux questions. Après, dans les milieux écolos, il y a plein de femmes des milieux écolos qui, par contre, à l'inverse, ont voulu, après 75, à un moment donné, vers 77, etc., travailler la question. Donc, elle n'est pas seule. À ce moment-là, il y en a d'autres qu'elle qui l'ont fait. En France, il y a plusieurs... Il y a les femmes des Amis de la Terre, qui avaient un groupe, les Amis de la Terre, et qui réfléchissaient. Elles étaient nombreuses, elles écrivaient des textes, etc. Donc, il y avait une production textuelle, même théorique, etc., à partir de leur position à l'intérieur des Amis de la Terre. Il y avait Anne-Marie de Villene. Enfin, il y en avait plusieurs. Donc, il y a plusieurs... En fait, il faut aussi sortir de l'idée que Françoise Daubonne était toute seule, en fait. C'est ça aussi. Enfin, là, pour le coup, c'est un livre sur Françoise Daubonne, mais les articles que j'ai écrits à chaque fois, c'était pour dire... Il faut faut penser de manière globale cette période et pas encore pas héroïser ou pas simplement. Alors, elle est tellement iconoclaste avec. Et c'est sûr que c'est pas Anne-Marie Vlilaine qui écrivait des textes comme ça. C'était beaucoup plus consensuel malgré tout. Et ensuite, je pense que. Oui, elles n'étaient pas là. Enfin, une grande partie du mouvement féministe n'était pas du tout sur cette question-là. Ça ne s'intéressait pas à la question du nucléaire en ces termes-là, par ailleurs. Donc, ce n'était pas véritablement une question. Parce qu'elles étaient prises aussi dans un autre agenda où elles mettaient toute leur énergie aussi. Donc, en fait, c'est difficile d'être sur tous les terrains en même temps. Et ensuite, dans les années 80, c'est-à-dire au moment vraiment de la politisation de l'écoféminisme, enfin, où ça devient un mouvement transnational, là, les Françaises sont à l'écart pour plein de raisons. Mais une des raisons, c'est qu'il n'y a pas de missile Pershing en France. Enfin, il n'y a pas la réalité de devoir se battre contre le fait qu'il y ait des missiles installés sur notre territoire. Nous, les armes nucléaires, c'est loin, hein, c'est en Algérie, c'est voilà. Et donc, c'est pas sur le territoire. Donc, elles sont le mouvement pour la paix. Il est beaucoup aux mains du PC à l'époque et du coup, qui n'est pas du tout sensible à toutes ces questions-là. Et ensuite, les histoires d'occupation en non-mixité, comme il y a eu à Gwynham Common en Angleterre. Il y a eu des Françaises qui ont été là-bas. Hein. C'est pas comme s'il n'y avait pas de Françaises qui avaient participé. Mais ça semblait complètement... On n'était pas du tout, les féministes françaises n'étaient pas du tout dans cet agenda-là à ce moment-là, quoi. Donc, elles étaient dans une forme d'institutionnalisation aussi à cette période. Donc, elles n'étaient pas du tout. Après, il y avait les mouvements lesbiens qui, eux, étaient plus actifs politiquement, qu'on retrouve beaucoup plus voyager par ailleurs dans différents espaces et qui étaient plus proches, en fait, de ces questions dans certains espaces, notamment pas très loin de Toulouse, dans les espaces de communautés lesbiennes, qui partageaient plus de l'ADN de ce mouvement. Mais il y a plein, c'est une addition de plein de raisons, en fait. Et puis le fait que, malgré tout, dans les mouvements écoféministes, il y avait ce côté culturel qui était de repenser la culture des femmes, de faire une nouvelle agenda, une nouvelle temporalité, de tout changer, de changer les mots, etc. Et puis très proche de la spiritualité aussi. Il y avait beaucoup de mouvements qui étaient aussi sur la réinvention de spiritualité. Et ça, alors là, en France, no way.
Oui, juste. Et est-ce que c'est pas aussi après tout, oui, c'est pas aussi sa critique de la technique, parce qu'elle avait une critique très forte quand même du capitalisme, ouais, et du système industriel, ce que n'avaient pas les féministes, à ma connaissance.
Oui, non, c'est sûr. Après, moi, je suis d'accord. Ouais. Après, je trouve que c'est pas ce qu'elle développe longuement, en fait. Donc, elle a cette attention et qu'elle développe dans certains livres, mais on voit que c'est pas dans ses archives, etc. C'est pas une préoccupation de tous les instants pour Daubonne, la question de la technique. Même si elle le critique, c'est quand même pas. Elle est quand même beaucoup sur la reproduction. Enfin, surtout, notamment sur toute la première partie des années 70, elle est vraiment sur cette question-là. Et donc la question de la technique apparaît, bien sûr. Mais elle, c'est pas une penseuse de la technique pour moi. Enfin, je pense pas que. Enfin, après, je l'ai pas pris sous cet angle. Il y a certainement des gens qui devraient le prendre sous cet angle pour voir ce qu'il y a à dire par rapport à ça. Mais oui. Après, il y en avait des féministes qui étaient aussi contre la technique dans les années 80. C'est juste aussi qu'on n'est pas, on n'a pas fait de retour critique un peu sur cette période. Mais il y a eu, il s'est passé des choses là-dessus aussi. Mais ça reste en friche.
Hétérodoxe, moi j'ai découvert ça en arrivant à Toulouse, hein, je connaissais pas avant. Et donc, pour aller dans son sens, je dirais que quand même, avec ces phrases choc, la société marchande mal, ce qui, j'active comme ça le petit drapeau Françoise Daubonne, c'est qu'en effet, elle s'inscrit totalement à contre-courant du mouvement des années 70 en tant que, je dirais que pour appliquer un terme du modèle horrible du développement, ce qui est c'est-à-dire modernité de rattrapage pour, vous savez, les pays tech par rapport aux centres développés, les femmes sont dans une perspective justement d'un process de valorisation et de virilisation par le travail. L'émancipation se parle. Or, Françoise Daubonne, quand on le lit, c'est-à-dire qu'il dit qu'il n'y a rien à attendre à ce que la moitié de l'humanité aille justement dans la sphère du travail, donc de la production de valeur. Et donc ça, c'est totalement ahurissant quand on sait qu'à cette époque, pour moi, c'est ça le schisme. C'est ni forcément.
Après, il y a plein de féministes qui sont sur cette ligne-là en France aussi. Donc oui, notamment dans l'autonomie française de l'époque. Donc,
Toutes les.
T'as tous les liens avec les marxiennes de l'époque et les italiennes. Donc, via l'Italie, en fait, il y a quand même beaucoup de féministes qui sont sur cette question-là, mais elles ne sont pas... Alors, pour le coup, elles ne sont pas institutionnalisées après, mais c'est des courants qui... Il y en a beaucoup. Enfin, pas beaucoup, mais elles existent et elles écrivent aussi à l'époque. Donc... J'en ai parlé dans mon mémoire, mais je ne l'ai pas publié.
Mais il y a des super articles qui... Est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions ?
Oui, bonjour, merci d'abord pour la présentation. Moi, j'avais une question par rapport à la violence politique. Et vous avez expliqué un peu toutes ces positions, mais je me demande quel est le bilan qu'elle tire de la... Enfin, si elle en tire un, je ne sais pas. De la répression et de la... Je ne sais pas s'il faut appeler ça un échec, mais en tout cas, ce qui se passe en Italie, en France, en Allemagne, c'est que quand même tous les groupes dont vous avez expliqué qu'elle était proche, donc la RAF, les Brigades Rouges, je ne sais pas si elle en a été proche, mais il y a quand même une vague de répression énorme. Et du coup, historiquement aussi, quel est le bilan qu'elle tire de ça, de l'efficacité de ces méthodes-là, et parce que je comprends qu'on les soutient, mais c'est autre chose de reprendre ce programme politique-là. Et ça nous amène à aujourd'hui, le republier maintenant. Est-ce que c'est pour dire là ce qui manque dans le mouvement féministe, dans le mouvement climat, est-ce que c'est de la violence politique comme elle a pu être assumée à un moment dans ces années-là? Est-ce que c'est pour ça que vous faites le lien avec les soulèvements de la Terre? Et voilà, selon vous, c'est quoi les articulations un peu subtiles qui permettraient de dépasser l'échec ou la vague de répression énorme qu'il y a eu dans les années 70-80?
Alors, elle ne dit rien là-dessus, parce qu'en fait, le texte qu'elle écrit... Enfin, ce texte-là, qui est vraiment les textes qu'elle publie sur la violence politique, elle s'est publiée en 78, c'est écrit en gros à partir de 76 et la mort d'Ulrich Meinhof jusqu'en 78. Et donc, ce qu'on sait, c'est qu'ensuite, elle a toujours soutenu AD, par exemple, Action Directe. Hein, elle a toujours soutenu, elle n'a jamais écrit, même si elle est, encore une fois, même si elle pouvait avoir un soutien critique, mais elle n'a pas écrit là-dessus après. C'est-à-dire qu'ensuite, Daubonne, elle passe d'un sujet à un autre aussi. Hein, donc c'est ce qui lui permet donc d'être à un moment donné sur l'antipsy. Donc après, elle passe vraiment sur tout ce qui est radio, des radios libres. Hein, donc, où je pense qu'elle parle. On n'a malheureusement pas les archives de ce qu'elle dit à ce moment-là, mais je pense que c'est à une époque, justement, c'est tout ce qui se passe autour d'Action Directe, etc. Donc c'est probable qu'elle en parle, mais on les a pas. Donc du coup, on n'a pas, elle fait pas de, voilà, elle dit pas, elle revient pas, elle a pas un bilan critique sur ce qu'elle a porté à un moment donné en disant la répression était en plein dedans en 77 hein, par ailleurs. Donc elle, c'est aussi, mais sa position, elle n'est pas théoriquement pure de toute façon politiquement. C'est-à-dire que c'est pas elle fait de la théorie, mais c'est pas une grande théoricienne. Donc, en fait, c'est quand même aussi des textes qui sont extrêmement réactifs et qui veulent mettre ensemble, essayer de faire dialoguer des réalités, mais elle n'est pas sa position, on essaye de la comprendre stricto sensu sur sa position vraiment sur tel type d'action, etc. C'est pas complètement clair. Donc l'idée, c'est pas un programme politique du tout. Et d'ailleurs, elle-même, elle n'est pas du tout dans l'idée de faire du programme politique. Et moi-même, et moi certainement pas non plus. Enfin, je suis pas du tout dans l'idée de faire un programme politique à ce moment-là. C'est juste... alors, par ailleurs... au moment où je pensais la sortie du livre, j'avais évidemment pas anticipé Sainte-Soline et bon. Donc c'est, ouais, enfin, je veux dire que c'est, le livre sort à un moment où il rencontre une réalité qui n'était pas exactement la même que le moment où moi j'ai commencé à y réfléchir, c'est-à-dire plutôt un moment de la sortie du livre d'Andreas Malm et de moi j'ai écrit un article aussi sur Terrestre sur le livre d'Andreas Malm en voulant complexifier là encore la proposition d'Andreas Malm dans son livre Comment saboter un pipeline, parce que c'est un livre très mémoriel par ailleurs, c'est un livre qui s'adresse au mouvement climat non violent en disant Justement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, mais en allant piocher une généalogie autre dans les luttes pour dire bah non, en fait, la non-violence, elle n'est pas forcément complètement efficace. Et lui, il prend des exemples, notamment dans les pays du Sud global et plutôt dans des mouvements plutôt d'approche marxiste-léniniste du Sud. Et du coup, moi, ce qui m'intéressait, c'était là encore de complexifier et d'aller chercher d'autres types d'histoires et d'autres types de généalogies. Après, c'est pas dans l'idée d'un programme politique, c'est dans l'idée vraiment de mettre dans le débat d'autres types de textes, de représentations, d'arguments, d'histoires, de généalogies, mais pas de positionnement stricto sensu sur... Après, ce qu'elle... Elle est tellement sur la défense... elle n'est pas sur la possibilité... elle ne défend pas que la lutte armée. Enfin, je veux dire, c'est pas un livre qui dit comme programme la lutte armée. Et le projet, c'était pas de dire que ben on allait tout de suite aller faire des caches d'armes en sortant de la librairie. Enfin, donc elle est plutôt vraiment sur l'idée de faire dialoguer des cultures politiques qui sont différentes sur cette histoire de violence non violence. Et c'était ça qui m'intéressait. Mais voilà. Après le débat stratégique, tactique, il est à avoir.
Est-ce qu'on peut peut-être prendre encore une question, réaction, ou pas, c'est comme vous voulez. Non, mais on peut. D'accord. Bon, merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus aussi nombreux. Et puis, on va ranger, on peut discuter de façon plus informelle. Et à bientôt, bonne soirée.
C'était Rencontre avec Isabelle Kambourakis autour de la réédition de Contre-violence ou la résistance à l'État de Françoise Daubonne, paru aux éditions Kambourakis.
Sur livre dormir.